VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. La lutte contre Boko Haram réunie aujourd'hui à Abuja au Nigeria. De hauts responsables militaires nigériens, tchadiens, nigériens, camerounais et béninois pour coordonner leur action contre les islamistes de la secte. Cette conférence des chefs d'état-major de la coalition anti-Boko Haram devrait précéder un sommet des chefs d'état des 5 pays alliés, a indiqué un communiqué des forces armées nigérianes. Selon l'AFP, l'alliance contre le mouvement islamiste veut créer une nouvelle force multinationale plus homogène soutenue par l'Union africaine avec son quartier général à N'Djamena au Tchad. Direction maintenant la Guinée. Le dialogue politique maintes fois reporté entre le gouvernement et l'opposition aura finalement lieu la semaine prochaine. La date du 15 juin a été évoquée. C'est du moins ce que propose la mission gouvernementale qui a rencontré les deux parties. L'opposition guinéenne affiche un certain optimisme quant à la tenue de ses pourparlers. Néanmoins, comme vous venez de l'entendre, des préalables restent à respecter. Chérubin Dorsil a joint le leader de l'UGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Écoutez Gandhi Tunkara.
Comme vous savez, il y a quand même des préalables que l'opposition a eu à poser. Parmi ces préalables, il y a la libération de tous les prisonniers qui avaient été arrêtés lors des manifestations et condamnés. Ça, c'est un préalable capital parce que l'opposition pense qu'il lui serait difficile de se mettre à une table de négociation alors qu'elle a des militants qui sont encore détenus pour des manifestations qui ont été faites. Donc, est-ce que le gouvernement va accéder à cela? On ne sait pas, mais je crois que c'est un préalable fondamental pour nous.
Alors, quand vous dites que c'est un préalable fondamental pour nous, est-ce que vous parlez au nom de toute l'opposition ou bien c'est votre point de vue personnel?
C'est mon point de vue personnel, mais c'est surtout un point de vue qui a été décidé ou arrêté, plus ou moins au sein des dernières discussions avec les autres collègues de l'opposition. Mais bien entendu, je parle à mon nom personnel là.
Vous vous montrez optimiste, M. Tonkara, mais il reste encore, si je vous comprends bien, une possibilité que cette rencontre n'ait pas lieu.
Oui, il y a cette possibilité qui existe. Nous espérons vivement parce que nous sommes de l'opposition plurielle, mais pas radical. Nous sommes de l'opposition modérée. Donc notre souhait, c'est que cette discussion puisse commencer pour que la Guinée sorte de cette situation de blocage. Mais bien entendu, comme je vous ai dit, l'opposition étant plurielle, il y a des radicaux et souvent ils sont plus forts, ils sont plus nombreux, qui parfois tirent les choses dans un autre sens.
Si la rencontre a lieu comme prévu, à quoi vous attendrez-vous?
Nous attendons à ce que de part et d'autre, il puisse y avoir des concessions, notamment sur les points d'achoppement, tels que l'ordre des élections.
Vous aimeriez que la présidentielle soit le dernier scrutin à avoir lieu, c'est ça?
Exactement, tout à fait. Il y a aussi le fichier. Vous savez, le fichier électoral actuellement n'est pas maîtrisé. Nous ne savons pas quelles sont les données qu'il contient et nous voudrions qu'éventuellement, comme cela s'est passé lors des législatives, qu'il puisse y avoir une expertise extérieure. La dernière fois, je crois que c'était l'Union européenne. Donc il a été difficile, selon nous, de faire certaines manipulations. Comme le gouvernement a décidé qu'il ne voulait plus d'assistance dans ce domaine, donc nous sommes un peu suspicieux que nous n'ayons pas la maîtrise de ce fichier électoral-là.
Gandhi Tunkara, leader de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, interrogé par Chérubin Dorsil. Mali, une conférence économique pour la reconstruction du nord du pays aura lieu en septembre à Paris sous l'égide de l'OCDE. C'est ce qu'a annoncé hier Modibo Keïta, le chef du gouvernement malien, lors de sa déclaration de politique générale au Parlement à Bamako. Plus de détails sur le discours avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Devant les élus de la nation, le premier ministre a décortiqué les documents que les membres du gouvernement doivent traduire en actes concrets dans les jours et mois à venir. Modibo Keïta, Premier ministre du Mali.
Nous avons choisi de bâtir la présente déclaration de politique générale autour de trois axes. Visant premièrement à assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens dans un environnement de paix. Deuxièmement, améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Troisièmement, promouvoir la justice et l'équité.
Pendant une heure de temps, le Premier ministre a touché à tous les segments de la société malienne. Construction de routes, d'infrastructures de développement, mais aussi la situation sécuritaire dans le nord du Mali, avec en toile de fond la situation sur le terrain.
Nous sommes meurtris devant ces scènes d'agressions multiples, qui hélas ne cessent de s'amplifier. Cela, nous le déplorons et le gouvernement a la ferme détermination d'y mettre fin avec le concours de tous.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et deuxième jour de deuil national de 3 jours au Ghana pour rendre hommage aux victimes de l'explosion de la station d'essence et des inondations qui ont fait plus de 150 morts à Accra, la capitale. Pour la circonstance, le gouvernement a exhorté les Ghanais à porter des vêtements noirs ou des brassards rouges, à prier et à réconforter les familles des victimes du double drame. Demain, au dernier jour du deuil, un service commémoratif pour les défunts aura lieu à proximité du site de l'explosion au rond-point Kwame Nkrumah en présence du président John Mahama. Près de 10 000 personnes ont été affectées par les inondations et l'incendie qui ont fait, selon la Croix-Rouge, plus de 150 morts la semaine dernière.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobo Nahiba réaffirme aujourd'hui que la candidature du président Pierre Nkurunziza à un mandat de plus n'est pas négociable. Pour sa part, l'opposition rejette le nouveau calendrier électoral proposé par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et pose selon l'AFP plusieurs conditions à l'organisation des prochains scrutins. Du côté de la CENI, on dit attendre la validation du chronogramme électoral par le pouvoir. Eddy Sango.
Les chronogrammes proposés par la CENI fixent les législatives au 26 juin, suivi de la présidentielle le 15 juillet et des sénatoriales le 24 du même mois. Ces dates prennent en compte les recommandations des leaders d'Afrique de l'Est qui avaient suggéré un report des différents scrutins, a fait savoir Prosper Ntaoroamiye, un porte-parole de la commission électorale. Les conseillers présidentiels Nyamitwe a indiqué de son côté que le gouvernement discute des nouvelles dates avec les leaders de l'opposition et de la société civile et qu'une légère modification n'est pas à exclure.
25e sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Les leaders africains se penchent non seulement sur les problèmes d'infrastructure, mais aussi la question du terrorisme et la vague de migrants africains en Méditerranée. Lionel Gaïma.
Ce sommet conserve pour thème celui du sommet de janvier 2015, à savoir l'année de l'autonomisation de la femme et du développement vers l'agenda 2063 en Afrique. Il est présidé par le Zimbabwe, qui assure la présidence de l'Union africaine en 2015. Pour la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Maite Nkoana Mashabane, l'éradication de la pauvreté reste la priorité des participants.
It's going to take our will to fold our sleeves.
Il faudra avoir la volonté de retrousser nos manches, de tirer sur nos chaussettes, en particulier les jeunes, et d'œuvrer à la prospérité du continent et à l'éradication totale de la pauvreté grâce à une transformation économique radicale.
Également au menu de ce 25e sommet de l'Union africaine, l'instabilité politique au Burundi et la guerre au Soudan du Sud, ainsi que la menace terroriste dans des pays tels que le Nigeria, la Somalie ou le Kenya.
La justice égyptienne a condamné aujourd'hui 11 personnes à mort pour des émeutes survenues en 2012 dans un stade de football à Port Saïd dans le nord du pays. Ces événements avaient fait 74 morts et une centaine de blessés. Les violences sont intervenues à la fin d'un match entre Al Ahly du Caire et l'équipe de Al Masry, qui a vu des affrontements dégénérer entre supporters des deux équipes. 40 personnes ont été coupées de peines allant jusqu'à 15 ans et 20 autres ont été acquittées. Les peines sont susceptibles d'appel.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le président américain Barack Obama a souligné la nécessité de former plus rapidement les troupes irakiennes afin de réussir dans la lutte contre les combattants de l'État islamique. Le chef de l'exécutif américain a affirmé hier que le premier ministre Haider al-Abadi était d'accord sur la nécessité d'avoir davantage de recrues formées, bien équipées et concentrées. Les deux dirigeants se sont rencontrés lundi en Allemagne au cours d'une réunion de haut niveau afin d'élaborer des stratégies contre le groupe militant qui a pris le contrôle de vastes pans de territoire en Irak il y a un an et a conquis certaines des plus grandes villes du pays malgré un soutien aérien des États-Unis aux forces irakiennes au sol. M. Obama a annoncé que le Pentagone travaille sur des plans de relance de la formation et s'est dit satisfait des efforts antérieurs dans ce sens. Même pour le président américain, les recrutements doivent se faire en priorité dans les tribus sunnites. Et puis, crise libyenne poursuit des pourparlers entre les deux parlements rivaux de la Libye sous l'égide de l'ONU à Chikrat, au Maroc. Les Nations Unies essaient depuis plusieurs mois de convaincre les parties libyennes de conclure un accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale capable de rétablir la paix en Libye. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce microphone. Prochain rendez-vous, c'est dans environ 50 minutes sur VOA Afrique. Restez en notre compagnie.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.